Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir.
Bonsoir, il est 19h02 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure des infos.
On enchaîne tout de suite avec les titres. Alors on va commencer par une nouvelle rubrique de brève que vous découvrirez tout à l'heure, pour ensuite passer à l'international où on parle des États-Unis, puisqu'à Atlanta, à nouveau une personne a été tuée par la police. Au national, on continuera à parler de la police, mais en France cette fois. On écoutera d'ailleurs un petit reportage sur le rassemblement de samedi à Lyon contre les violences policières. On enchaînera avec Martinez, qui soutient le plan de relance de Macron-Merkel.
Enfin, il n'est pas la Martinez, on en parlera.
On en parlera, oui.
Et on l'enchaînera, d'ailleurs.
Ouais. Et ensuite, on parlera de la mobilisation des Chibani pour de meilleures conditions de vie en foyer.
Et pour finir au local, on vous passera un reportage qui a été fait à l'ECG, l'espace communal de la Guillotière, puis un autre reportage, une conférence de presse des personnels de la santé, et pour terminer, on aura un invité qui nous parlera d'une mobilisation pour la prolongation de la trêve hivernale.
Et donc, on commence tout de suite avec les brèves.
Oui, alors attends.
Nouvelle rubrique.
Attends, la rubrique commence mal. Et oui. Alors, on commence avec de l'international. Hein, l'épidémie de Covid-19 est-elle appelée à repartir en Chine? C'est ce que craignent les autorités qui ont placé 10 nouvelles zones résidentielles en quarantaine à Pékin, alors que la capitale chinoise a dénombré 36 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Et on passe en Algérie, où de nouvelles arrestations ont eu lieu. La répression s'intensifie en ce moment, puisque 3 nouveaux militants connus du IRAK, le mouvement de contestation anti-régime dans le pays, ont été interpellés dimanche, a-t-on appris auprès de l'ONG de défense des droits de l'homme et des prisonniers. Et on continue au national avec une info, une info entre Macron et l'extrême droite. Visiblement, Macron toujours sur la même ligne que l'extrême droite, puisque Marine Le Pen se dit d'accord avec le président quand celui-ci a déclaré dimanche que la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Récemment, on pouvait voir des policiers qui affichaient sur des banderoles « La police n'est pas raciste, mais républicaine ». Eh bien, peut-être que c'est en fait la République qui est raciste. Et dans la série Gros foutage de gueule, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a estimé dimanche que faire travailler des salariés polonais de PSA dans des usines françaises était un sujet de solidarité européenne lors d'une émission sur RTL. Alors, depuis quand le MEDEF se soucie de solidarité internationale, on se demande.
Et dans la série, partie des travailleurs.
Et dans la série Bonne Nouvelle, on va parler un peu de Bonne Nouvelle quand même. Une décision du Conseil d'État du 13 juin rétablit le droit de manifester. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient trop peur de s'exposer à la répression policière. Autre bonne nouvelle, victoire pour les grévistes de l'usine Bombardier. Hein. Après une semaine de lutte, la direction a reculé, car depuis lundi dernier, ils étaient mobilisés contre la tentative de cette direction de retirer une semaine de congés payés en échange d'avantages financiers. Mais les salariés ont obtenu ce matin victoire, hein, comme quoi la lutte, ça paye. Et pour finir avec des infos locales, samedi dernier, une quarantaine de travailleuses du sexe ont manifesté à Lyon devant l'avenue Tony Garnier dans le 7e pour dénoncer les violences dont elles font l'objet et les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur activité. Le mouvement, qui s'est organisé d'une manière totalement spontanée, d'après l'association lyonnaise Cabiria, visait à attirer l'attention sur plusieurs arrêtés de la mairie de Lyon, notamment l'un d'eux qui interdit le stationnement des camionnettes dans la ville. Et par extension, les travailleurs du sexe dénonçaient aussi le climat d'insécurité lié à ces arrêtés anti-prostitution, plusieurs ayant été victimes d'agressions récemment.
Voilà pour la rubrique brève, et on enchaîne donc avec les États-Unis.
Oui, car aux États-Unis, donc après George Floyd, c'est Richard Brooks qui a été assassiné, plus précisément à Atlanta. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Il avait 27 ans, il était noir. Les flics qui l'ont tué sont blancs. La scène a été filmée, elle est sans appel. Richard Brooks est dans sa voiture en train de pioncer sur l'allée du drive-in d'un restaurant. Le resto appelle les flics car la voiture gêne. Deux flics se pointent, le réveillent et le font sortir de son véhicule, puis souffler dans le ballon. Il est au-dessus du seuil autorisé. Là, les deux flics décident de l'interpeller. Il refuse. Il se jette à deux sur lui. Ils se battent. Richard Brooks se démène plutôt bien. Il arrive à se relever tout en attrapant le taser d'un des deux flics. Il part en courant. Il a à peine le temps de se retourner avant de se prendre trois balles dans le corps, dans le dos. Donc il était bien en train de courir et mourir peu après à l'hôpital. Un crime raciste. Encore un. Sauf que, je vous le disais, la scène a été filmée. Le flic qui a tiré, Garrett Rolfe, a été renvoyé et l'autre muté. C'est probablement tout ce qui leur arrivera. La chef de la police d'Atlanta a quant à elle démissionné. Et quoi ? Qu'est-ce que ça change ? Même l'un des plus gros mouvements de ces dernières décennies aux États-Unis contre les crimes policiers racistes n'a pas empêché ces deux flics de tuer à nouveau, se sentant de toute façon protégés. Dès le lendemain, samedi soir, une manifestation monstre a eu lieu à Atlanta, au départ du restaurant, qui a d'ailleurs rapidement brûlé. Puis les manifestants sont allés bloquer l'autoroute avant de se faire violemment déloger. Des affrontements duraient jusqu'à tard dans la nuit. Hier aussi, des manifestations ont eu lieu à Atlanta, mais également dans beaucoup d'autres grandes villes des États-Unis. On va continuer à suivre de près ce mouvement d'une ampleur rare. Ça doit pas être facile quand on a des fachos au pouvoir. Enfin, vu le discours patriotique, nationaliste et pro-colonial de Macron hier soir, en faisant passer les flics pour des sauveurs et des héros, on a sacrément du taf ici aussi. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure.
Et oui, on passe au national, et justement un sujet sur les violences policières en France.
C'est ça, on en parle tout de suite. Puisque depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, puis en France à la sortie des conversations WhatsApp dans le podcast d'Arte Radio, puis les révélations de Street Press sur un groupe Facebook regroupant plus de 8000 membres des forces de l'ordre ouvertement racistes, partout se tiennent des rassemblements et des manifestations contre les violences policières et contre le racisme. C'était le cas ce week-end, dont un à Lyon. On vous fera d'ailleurs écouter des extraits du rassemblement auquel ont participé plusieurs comités Vérité et Justice. Ces rassemblements regroupent à chaque fois énormément de monde, et ce malgré l'interdiction de se rassembler à plus de 10 encore en vigueur samedi dernier. La colère se ressent et au gouvernement, il est devenu de plus en plus nécessaire de réagir ou tout du moins de calmer le jeu. Lundi dernier, Castaner avait annoncé des mesures pour lutter contre le racisme dans la police. Il ne s'était pas engagé à grand-chose, mais il avait dit qu'il y aurait une tolérance zéro. Il a parlé de mettre à pied des policiers sur lesquels il y aurait des soupçons avérés de racisme, même si soupçons avérés, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, il a avancé l'idée d'une interdiction de la clé d'étranglement. Alors, c'est ce que ça veut... pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et surtout, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? D'abord, au niveau de la fameuse clé d'étranglement. Pour commencer, il faut rappeler que c'est loin d'être la seule façon qu'utilise la police pour tuer. On va le réentendre tout à l'heure dans le reportage. Ensuite, très rapidement, Castaner a rétropédalé. Elle ne va pas vraiment être interdite, mais modifiée pour que la police ne prenne plus appui sur le cou des victimes. Puis finalement, elle va être interdite. Pour le moment, on nous a surtout dit qu'elle ne serait plus enseignée. Alors, pourquoi ce rétropédalage ? Pourquoi ces bafouillements ? Tout simplement, c'est dû à des protestations des policiers. Les protestations qui font beaucoup de bruit, bien que leur rassemblement se compte en dizaines de personnes, alors qu'ils se comptent en milliers quand il s'agit de rassemblements contre les violences policières, elles sont en effet énormément relayées dans les médias qui leur accordent une certaine sympathie. Et les flics et leurs syndicats ne font pas peur qu'aux manifestants. Très vite, ils ont joué la carte de « si vous faites pas ce qu'on veut, on arrête de travailler ». Le secrétaire général de SGP Police a en effet appelé ses collègues à ne plus intervenir. Et ça, ça fait peur déjà au gouvernement, évidemment, qui ne tiendrait pas sans sa police, mais ça joue aussi sur les peurs des Français, qui ne sont d'habitude pas la cible des violences policières, puisqu'on leur dit en gros, soit vous nous laissez tabasser les Noirs et les Arabes, et les gens de gauche, soit on ne sera pas là pour vous en cas de besoin. Les pleurnicheries de la police ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils considèrent que ne serait-ce que de dire qu'il y a du racisme dans la police devrait être interdit. Vous vous souvenez d'ailleurs de la réaction au propos de Camilla Jordana le mois dernier. Aujourd'hui, ils sont largement soutenus par le Rassemblement National, en la personne par exemple de Nicolas Bay, eurodéputé RN, qui traite les victimes de la police et leurs familles de délinquants, considère que c'est la police qui est victime de violences, niant que le nombre de morts et de blessés ne va pas dans son sens, et nie aussi largement qu'il y a du racisme alors qu'on a eu des preuves accablantes. Malheureusement, ce discours est relayé partout. Et ce sont des mensonges, il y a bien deux poids deux mesures. On a encore vu ça à Paris, où les militants de Génération Identitaire qui se sont fait arrêter pour avoir accroché une banderole ne sont même pas allés en garde à vue. Deux heures après leur arrestation, ils postaient sur Twitter une photo d'eux, très fiers d'annoncer qu'il ne leur était rien arrivé. Sur leur banderole, il y avait écrit « White Lives Matter ». Et c'est vrai que les vies blancs comptent, et d'ailleurs on le voit bien, puisqu'en tant que blanc, il ne leur est rien arrivé. Bref, comme en ce moment, il y a un vrai risque à tomber dans le piège de croire qu'il faut donner tous les droits à la police, comme elle le demande, à croire que ce sont des victimes et que de ne pas voir que ce qu'ils réclament, c'est de pouvoir agir en milice sans avoir à rendre de compte, comme n'importe qui d'autre rendait compte. Puisqu'il y a ce risque, on va écouter les prises de parole à Lyon samedi lors du rassemblement devant le tribunal des 24 colonnes et donc quatre récits de morts dans les mains de la police.
Bon, c'est le comité Justice et Vérité pour Mehdi qui va commencer.
Donc je vais commencer par raconter un petit peu l'histoire de mon frère, qui s'appelle Mehdi, qui est mort en 2016, suite à une chasse par la police sur la commune de Vénissieux. Ils étaient à trois sur un scooter, il a été pris en chasse, il est mort. Je demande juste la vérité, ça fait trois ans, je n'ai pas accès au dossier de mon frère, je ne sais pas comment il est mort. J'ai des témoins qui disent que voilà, ils ont été pris en chasse, j'ai des témoins qui disent qu'ils ont eu des coups de pression. Mon histoire, elle n'a pas commencé avec la mort de mon frère. Mon histoire, elle a commencé dans un tribunal, où je me suis rendue parce que mon frère était jugé. Il a été jugé pour outrage et rébellion parce qu'il s'était rendu dans la gare de la Part-Dieu et qu'il a eu le malheur de tomber sur plusieurs policiers qui l'ont tabassé. C'est 45 jours d'ITT. Je vais quand même illustrer le racisme qui existe en France au jour d'aujourd'hui. Elle lui dit « Vous avez brandi un cutter ». Mon frère répond « Non, je n'ai pas brandi de cutter ». On m'a demandé de sortir mes affaires. J'ai obtempéré. Et de ce fait, il y avait effectivement son manche de cutter avec son ticket de bus à l'intérieur qui est sorti de ses poches. La juge dit, vous allez donner des cours de français. Vous allez donner des cours de français à la cour. Mon frère rétorque effectivement pour lui, brandir et obtempérer en sortant ce qu'il a dans ses poches, ça ne veut pas dire la même chose. Oui, mon frère savait parler le français. Au bout de plusieurs heures, cette fameuse juge finit quand même par décider de regarder les vidéos qui se sont passées à la Part-Dieu. On peut enfin regarder ces vidéos, on voit mon frère au sol, et la juge coupe la vidéo. L'avocat que j'avais pris à l'époque, qui est toujours mon avocat d'ailleurs, pourquoi vous coupez cette vidéo? Et la juge a dit à ce moment-là, ici, on juge ce monsieur et pas les policiers. Phrase très lourde de son sens.
Il y a énormément de morts qui tombent après une arrestation. C'est pas depuis aujourd'hui. Wissam est décédé le 9 janvier 2012. Il s'est fait arrêter le 31-12-2011. Il n'est jamais ressorti du coma après une arrestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous vivons sur les mensonges. Ça, ils savent faire. Aujourd'hui, il y a une mère, ma propre mère, qui a dû aller à la cour d'appel mardi, qui a dû demander à ce que la juge se réveille et travaille, pas son boulot, car aujourd'hui, elle veut fermer une affaire où tout a été mensonge. Un appareil formaté, un ordinateur formaté, 12 voitures de police, aucun GPS ne fonctionne, des caméras qui ne fonctionnent pas. Il y a des témoins qui ont vu des coups, mais les témoins
Il est parti deux jours à Marseille et il est allé dormir dans un hôtel.
Et dans cet hôtel, donc, il a eu le malheur de faire sa prière. Donc en disant les trois premiers mots de la prière, c'est Allahu Akbar. Ils ont appelé la police pour l'arrêter. Donc il a été arrêté pour soi-disant apologie du terrorisme. Il a été jeté en prison à 23h du soir, 48 heures après avoir fait 48 heures de garde à vue. Le lendemain, à 18h, il a été constaté mort dans sa cellule. Soi-disant pendu. À l'heure actuelle, en fait, sa garde à vue a été transformée. C'est plus pour un apologie du terrorisme, c'est pour un outrage à agent. Mais pour un outrage à agent, on ne va pas en prison. Le deuil est impossible.
Merci.
Une fois justice passée.
Moi, je suis la sœur de Tina Seba, qui est décédée le 13 février 2007. À notre sens, en tout cas pour la famille, d'une bavure policière. Elle avait 17 ans, ils étaient quatre, deux garçons, deux filles. C'était tous des collégiens. L'erreur des deux garçons qui avaient volé une voiture, elle est montée dans le véhicule pour se faire déposer parce qu'il n'y avait plus de bus. Et malheureusement, elle était poursuivie par la police. Effectivement, on se dit une poursuite d'une voiture volée, ça paraît cohérent, mais c'est le problème, il est pendant et après. Pareil, véhicule trafiqué. Réquisition d'autopsie le lendemain de son don d'organes, c'était pour eux, en conférence de presse, quatre jeunes nord-africains qui ont, ayant beaucoup fumé, tous connus des services de police. Mais c'était pas le cas, pas un connu des services de police, pas d'alcool, pas de cannabis, rien du tout. Nous avons mené un procès donc jusqu'au bout, on est allé jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme. Bon, malheureusement, nous n'avons pas gagné parce que les papiers ont tous été trafiqués. Et on a eu ce que tout le monde n'aura pas, mais on a eu toute l'affaire et tout le dossier en main. On a eu notre vérité à nous et on a été jusqu'au bout. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que la Cour européenne.
Il faudrait qu'ils reconnaissent que c'est un État colonial, impérialiste, qui pille, qui tue, qui viole au-delà de ses frontières pour s'enrichir. Et le racisme et la violence qu'on subit dans les quartiers populaires, elle est reliée à ça. La violence et la colère des quartiers populaires, elle ne sort pas. Elle sort d'une histoire qui a des luttes depuis les années 60, 70, 80. Combien de morts ? Combien de morts ?
Et voilà, c'est un enregistrement sur le rassemblement qui s'est tenu samedi dernier. Et ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'après ce rassemblement, il y a une tentative de départ en manifestation depuis Bellecour, qui s'est très mal terminée, puisque la police, justement, assez en colère d'être mise en cause sur tout le territoire, a décidé de se venger, clairement. Il y avait une volonté de se venger des flics, qui ont fait une nasse, en disant aux gens de se disperser, mais en les empêchant de se disperser, et les ont attaqués à coups de canons à eau, moult gaz lacrymo, et on a eu 5 interpels et une personne blessée par un tir de LBD.
Voilà, sur cette conclusion, on enchaîne avec Martinez qui n'est pas là, mais on va quand même parler de lui.
Ah oui, Martinez, ce brave Martinez qui soutient le plan de relance Macron-Merkel. Alors d'abord, c'est quoi ce plan de relance ? On vous en avait déjà parlé dans le Canu Info du lundi 13 avril 2020. Donc pour une analyse détaillée, on vous invite à aller le réécouter en podcast. En résumé, ce plan qui a été validé dans la douleur par les 27 États membres de l'UE, c'est d'emprunter 500 milliards d'euros, rien que ça, au marché financier pour relancer l'économie capitaliste ébranlée par la crise sanitaire. En gros, il s'agit ici de restructurer le capital pour relancer la courbe du taux de profit en contrepartie de réformes structurelles. Rediriger les capitaux privés empruntés au marché financier avec l'aval et la garantie des puissances publiques vers les entreprises et économies les plus touchées. Les intermédiaires européens sont la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne et le Mécanisme européen de stabilité. Ces trois organismes auront pour objectif de garantir les remboursements au marché financier aux dépens des dettes publiques qui vont continuer d'exploser avec comme corollaire une pluie diluvienne de politiques d'austérité. Et bien figurez-vous que ce Martinez, le big boss de la CGT, a signé ce plan aux côtés de la CFDT, de l'UNSA, de la CFTC, nos amis hein, syndiqués comme dans ces syndicats-là, également aux côtés du puissant et très intégré syndicalement DGB, saluant cette heureuse initiative. Et bien à la CGT, ça passe mal, ça passe même très mal cette position, pour une bonne partie de la base comme pour certaines fédérations, comme celle de la chimie, commerce et services, ou encore les unions départementales Bouches-du-Rhône et Val-de-Marne, qui, en interne, ont accusé Martinez, je cite, de relancer la machine infernale de l'accumulation capitaliste contre les peuples. Les sources, c'est le canard enchaîné. La fédération de la CGT Énergie de Paris lui a également envoyé un courrier. Je cite, « Il ne t'a pas échappé que ces 500 milliards d'euros seront destinés exclusivement au patronat ainsi qu'à l'économie capitaliste et non pas aux travailleurs ni aux services publics, notamment la santé. Le courrier précise également que ces sommes, je cite, seront empruntées par les États aux banques privées sur les marchés financiers et que la dette et ses intérêts seront payés sur le dos des travailleurs, avec pour conséquence l'aggravation des politiques libérales de baisse des salaires, de casse du code du travail et de destruction des services publics. Au-delà même de ce plan de relance, le courrier questionne Martinez sur la place qu'il accorde à l'Union européenne et dénonce le fait que la déclaration dont il est co-signataire, je cite, plaide pour un instrument d'emprunt garanti par l'Union européenne et estime que les États membres doivent emboîter le pas à cette proposition franco-allemande. Le courrier rappelle que ce sont bien les politiques menées par l'UE et relayées par le gouvernement français depuis 30 ans qui ont explosé le monde du travail et qui sont à l'origine des luttes menées par les bases de la CGT. Pour finir, le courrier explique que ce texte, de façon honteuse et mensongère, place donc l'UE comme principal outil de protection des travailleurs et travailleuses européens. Conclusion, cher Philippe, tu n'as pas signé en notre nom, je vais y arriver. Ça fait jamais de mal de rappeler qu'entre la base et la bureaucratie syndicale, il y a bien une différence. Ce nouveau coup de piolet de Martinez et de la direction de la CGT ne tombera pas dans les poubelles de l'histoire.
Et on passe tout de suite à la mobilisation des Chibani.
Et oui, pour continuer sur le sujet du racisme structurel en France, j'aimerais vous parler désormais des mobilisations de Chibani dans les foyers Adoma. Alors les Chibani, littéralement cheveux blancs en arabe, hein, ce sont les travailleurs maghrébins ou d'Afrique subsaharienne de la première génération qui ont commencé à être amenés en France par l'Office national de l'immigration à partir des années 50 pour combler les manques de main-d'œuvre de l'industrie française. Adoma, c'est le nom actuel de l'organisme chargé de la gestion des foyers de travailleurs immigrés, enfin des foyers en général. Et oui, car depuis plus de 50 ans, la situation de ces travailleurs, aujourd'hui tous à la retraite, n'a guère évolué. À la précarité du statut d'ouvrier spécialisé dans les usines, a suivi celle d'une retraite de misère dans les foyers. Des foyers pour la plupart insalubres, un reportage de Mediapart dans des foyers à Montpellier décrit la situation ainsi. Des toilettes turques en mauvais état, des chambres de 7 mètres carrés, des plaques de cuisine qui ne marchent pas, des fuites d'eau, de la rouille, etc. Tout ça pour un loyer de 325 euros. Et avec le confinement, la situation s'est encore plus dégradée. Absence de masques, le ménage plus réalisé par les équipes d'Adoma et les pannes à répétition vont jusqu'à priver certains d'eau chaude pendant plusieurs mois. Sans compter l'extrême isolement social dont ont été victimes ces personnes âgées, souvent de 70, 80, 90 ans. Conséquence directe, la colère a monté depuis le confinement, d'autant plus qu'Adoma nie en bloc ses très nombreux manquements. À Montpellier et dans d'autres villes, une mobilisation commence à se lancer avec l'appui du DAL, le droit au logement. Une mobilisation qui rappelle fortement les grèves de loyers menées par les mêmes travailleurs dans les années 70 face à ce qui s'appelait alors la Sonacotra. Depuis, le traitement de ces travailleurs par la société française n'a pas beaucoup changé. À l'époque, on les faisait travailler dans des conditions déplorables pour leur santé et aliénantes, tout en exigeant d'eux qu'ils s'effacent de l'espace public, bref, de raser les murs en quelque sorte, sous peine de répression policière ou d'être victimes de racisme. Aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas morts prématurément à cause du travail, ils restent invisibilisés et doivent vivre dans la misère sociale et économique. Certains sont même contraints de rester en France pour bénéficier de soins. El Gorba, l'exil, a été pour ces travailleurs synonyme de vie volée au profit de la société française. C'est ça aussi le racisme structurel. La République est bien peu reconnaissante envers ceux qui, à Lyon, ont construit le quartier de la Part-Dieu, Perrache et tous les ensembles d'immeubles de la périphérie lyonnaise. L'ordre policier raciste que l'on dénonce aujourd'hui dans les manifs fait partie du même système que celui de qui exploite jusqu'à la moelle les générations précédentes. Comme l'a justement souligné Assa Traoré dans son ouvrage Le combat Adama, et là je la cite, « Chaque génération de la famille Traoré compte un homme qui s'est fait tuer par l'État français à un moment ou à un autre. Le grand-père pendant la guerre, le père à cause du travail, plus précisément la contamination à l'amiante, le fils à cause de la gendarmerie. C'est comme si chaque Traoré était mort pour participer à construire un système qui a tué un Traoré à la génération suivante. » Et maintenant, j'aimerais vous passer un son, une chanson du rappeur La Canaille qui résume assez bien une journée quotidienne pour un ouvrier spécialisé en usine. Voilà.
l'amour qu'avec la rosée. D'ailleurs l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas sur son casier, pose le cuss du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, rien qu'y penser. Puis pas à pas se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatiguée mais contente, quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage. Ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage. Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler, à emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Pour lui, le compte à rebours s'est enclenché. À peine le plancher foulé, 8h à tenir et pas question de flancher. Sinon c'est la porte. Des gars comme lui, y'en a à l'appel, profession, OS, comme il les appelle dans les boîtes d'intérim, ouvriers spécialisés, ferme-la et trim, l'exploitation est officialisée. Subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Passons lui fait que ça de cogiter, même agité, pense à tout pour s'évader. Vois ses gosses gambader, se rappelle du week-end dernier, les conneries du JT. Mère descend vite fait sur terre, son chef l'interpelle, à défaut de personnel, lui file du taf supplémentaire. Envie de s'occuper de son cas, lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le contrat il y a 3 mois. Moi chez Adeco, maintenant c'est lui fait de presse. Plus de stress, il galope de poste à poste avec cette cadence qui l'oppresse. L'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose. Une heure et demie, que vienne son heure de pause.
Et c'était l'usine du rappeur La Canaille. Et je vous invite à aller écouter la suite sur YouTube. Hein. On a pas mal de choses aujourd'hui, donc on va passer au sujet suivant.
Qui est le reportage sur le CGI.
Oui, donc l'espace communal de la Guillotière, hein, qui est un bâtiment qui a été réquisitionné cet hiver pour accueillir des exilés, mais aussi proposer des activités. Depuis la crise du coronavirus, il y a des distributions alimentaires qui ont été mises en place à l'espace communal. Et donc, on est allé faire un tour à une distribution la semaine dernière. On écoute ça tout de suite.
Regarde, là, ça, c'est bien, ça, ces trucs-là. Là. Plein de jambon, plein de trucs de carottes.
Même
de...
des burgers, ouais.
Pardon. Allez-y, monsieur. Vas-y, on les met au-dessus, les fraises. Ça, tu peux le mettre plutôt là-bas, s'il te plaît.
Mais c'est trempé, hein.
Ah ouais, ça aussi.
Les fraises, du coup, ça a pris...
Faut vraiment dû mettre un drap dans ces deux caisses.
Attends,
non, mais regarde, quoi, on les tèche tous. Hein. Voilà. Allez,
ouais, je pense qu'on rentre. Hein.
Là, pour ce voyage-là, on va. Il y a pas putain, ça dégouline de.
Ouais, mais il y a plein de fraises
de
là.
Flotte dégueulasse. Ah,
ouais.
Oh.
C'est du jus de fraises, ouais.
Putain. Oh, ça. Ma pauvre voiture.
Est-ce que tu peux me dire où on est?
Dans le quartier de la Guillotière, près de l'épicerie solidaire. Et du coup, on récupère là des. De la bouffe, fruits, légumes en tout genre, viande et tout ça, pour les ramener après à l'ECG, du coup l'espace communal Guillotière, pour la distribution de 17h30, du mercredi, du vendredi. Aujourd'hui on est mercredi.
Il y a quoi globalement dans la récup?
Là, de la salade, des radis, pas mal de fraises, des poires, des pommes du coup, beaucoup de viande, pas mal de jambon.
On fait une place là pour un gros truc.
Et là, on peut pas caler un truc aussi par-dessus.
Non mais là ça va le faire je pense, non? Tetris. Allez, c'est bon, c'est parti. Suite.
L'arrivage.
Il y a besoin d'aide ou pas?
Ouais, un petit peu. Adieu à quel endroit on peut monter. Mais on est par ordre quoi. Si nous avons une idée, on est par ordre quoi. On est par ordre, la famille. Non, tout quoi, pas une petite quoi.
Barry, toi tu fais quoi?
Moi je fais, je distribue les tickets là. Les tickets pour les gens.
Ouais. Merci.
Il y a déjà beaucoup de monde là, il y a combien de personnes?
Oui, il y a déjà 24 tickets qui sont déjà donnés là.
Celle-là on la jette, je pense.
Ouais.
Je pense que c'est plus utilisé le blanc.
Moi, ça, je mange.
Ouais, moi aussi.
Moi, je dis, on met au pire, on jette à 19h, au pire, on jette.
Et la salade, au pire, on peut la mettre. Ah non, elle est belle.
Là, franchement, toutes les salades sont trop belles pour une fois. Les gens les prennent pas trop d'habitude. Et là, je pense que ça va assez bien partir.
Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est né un peu ces distributions à l'espace communal ?
Il y avait déjà en fait des distributions qui se faisaient dans le quartier il y a quelques mois dans un squat à côté, là, le local. Et puis elles ont été délocalisées, je crois que c'était en février à l'ECG, puisque l'espace était vachement plus grand. Et ensuite, il y a eu le confinement. Du coup, c'est là où on a commencé à être un gros centre de récupération, de dons alimentaires qui venaient de plein d'endroits différents. Donc des appros qu'on avait déjà par ailleurs, puis il y a plein de gens qui ont mis la main à la pâte. Et en même temps, un nombre de gens croissant aussi qui venaient à ces distributions. Depuis vraiment le début du confinement, les mercredis et les vendredis, on a mis en place ces distributions sur un créneau horaire. Au début, c'était des distributions assez courtes qui duraient, je sais pas, une demi-heure parce qu'il y avait au début 15-20 personnes. Et puis très vite, au bout de quelques semaines et surtout à l'avant, la fin du confinement, je pense qu'on était minimum à 50 par distribution. 50 personnes, il y a des gens parfois qui venaient même deux fois dans la semaine, et les dernières semaines, il y a des fois on était 60-80. Donc potentiellement, peut-être qu'on peut se dire, il y a peut-être 120 foyers par semaine qui viennent récupérer des choses aux distributions.
Malik, c'est toi qui les donnes?
Je
te les remets et on vous aidera à la fin.
Du coup, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Merci d'être là. Du coup, je pense qu'il y en a qui sont habitués de venir à ce marché-là, à la distribution de la nourriture. Du coup, pour rappel, toujours, parce que pour nous, c'est important que vous soyez conscients de cela. Ici, du coup, c'est l'espace communal de la Guillotière, un lieu politique qu'on a ouvert en décembre pour s'organiser dans le quartier de la Guillotière, parce qu'on est plusieurs, qu'on habite ici, et on a envie que ça change, on a envie de s'organiser ici. Okay, on n'est pas une association, on ne fait pas de l'humanitaire, d'accord? Ce lieu-là, il est expulsable à partir de 10 juillet, c'est-à-dire que, en fait, à partir de 10 juillet, la police peut venir à n'importe quel moment pour nous expulser, si la trêve hivernale elle n'est pas prolongée, donc si on n'a pas un délai encore plus long. Du coup, comme vous le savez, le mercredi et le vendredi, il y a les distributions de nourriture à 17h30. Et aussi, rappelez-vous que les jeudis, de 16h à 18h, il y a les permanences juridiques ici, donc pour tout ce qui est logement ou autre, démarches administratives. Comme d'habitude, du coup, là maintenant, le système, c'est qu'on va vous donner des numéros. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille et comme ça, chacun et chacune à son tour. Vous allez rentrer. On vous demande, s'il vous plaît, comme d'habitude, d'être bienveillant et aussi de penser aux autres. Donc de faire attention, prendre les farci que tout le monde puisse prendre la même chose.
On fait passer la dame après le monsieur. Après le monsieur, on fera passer la dame parce qu'elle ne se sent pas très bien.
C'est à moi à vous dire après. Vous.
On se connaît bien.
Ouais. Parce
comment tu vas?
Moi je vais très bien.
Ça va.
Mais toi, t'as meilleure mine depuis que t'as déménagé.
Ouais, t'as vu ça.
Ouais. Non, t'as meilleure mine.
Je suis bien où je suis. C'est vrai que je suis bien.
T'habites là-bas. Mais psychologiquement, t'as l'air mieux dans ta tête.
Ouais, c'est vrai.
C'est la première fois que vous venez à la distribution?
Non, ça, malheureusement non. C'est la quatrième fois.
Ok, vous avez connu comment?
Par un ami, bien sûr. Ouais. Écoute, on ne gagne pas assez de thunes à un ami. Mais franchement, je ne vole personne sur ce coup-là. Puis l'occasion fait le larron. On est là, on dit, ça va, ça le fait. En plus, on rencontre des gens comme vous. C'est-à-dire que dès que tu as bouffé, tu as...
Mange à ma place.
Tu t'inquiètes pas pendant 2-3 jours, tu sais que il n'y a pas grand chose, mais déjà il y a. C'est moins t'es tranquille pour 2 jours et demi, 3 jours. Ou... Voilà.
Juste un. Mettez-vous là et après petit coup sur les mains.
C'est la première fois que vous venez, vous, ici?
Non, ça fait déjà plusieurs fois que je viens. Du début, quand vous étiez de l'autre côté déjà. Et je trouve ça super.
D'accord, quand c'était au local, même avant le confinement?
Même avant, oui.
Et vous avez eu l'information comment qu'on organise ces distributions?
C'est mon fils, il avait un ami qui était là et qui m'a dit « Maman, va là-bas, ils font des distributions ». Et j'ai trouvé ça super. C'est vraiment merveilleux.
Et vous venez les mercredis et les vendredis?
Mercredi et le vendredi. J'ai payé mes loyers, on a des punaises dans le bâtiment, il faut faire désinfecter, c'est cher. Et ça fait déjà 3 fois. J'en suis à 700 euros.
Et donc pour vous, venir ici, c'est aussi...
C'est salutaire. 17.
Numéro 17.
Vous avez le Malik, vous avez le 16.
Ouais, je voulais le mettre à côté parce que j'ai
pas. Ici, là, je pouvais prendre deux produits. Il y a du fromage, il y a des steaks aussi, il y a un peu de jambon.
Le steak, c'est où, là?
Là, c'est ici, tout ce qui est steak haché. Il faut en prendre deux, si vous voulez.
Ouais. C'est pareil, ça.
Ça, c'est pareil. Non, c'est deux entre les deux, quoi.
Ah, c'est voilà.
Si tous les gâteaux, c'est un grand, un petit.
C'est là, je suis en train de m'appeler.
C'est la première fois que vous venez ici?
Non, je viens tous les temps. Depuis le commencé, il est ouvert. C'est pas premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est moi qui viens ici.
Vous avez su qu'il y avait ça, comment?
Il y en a moussé ici, là. Il a dit bonjour maman, j'ai dit bonjour, il a dit il y a quelque chose ici, il a si tu as besoin, tu es rentré, il y en a carottes, il y en a pommes de terre. J'ai dit ah bon, il a dit oui. J'ai dit merci mon fils, j'y ai rentré. Seulement j'ai très content.
Et vous habitez dans le quartier?
Et lui à côté. C'est en face des bâtiments là, c'est moi.
T'as fini les gâteaux, hein?
Tu manges quoi?
Je sais pas, hein, je vais le tester, hein, c'est la...
Un chou à la crème au chocolat.
Un chou à la crème au chocolat?
Ouais, je sais pas. Ça a la tête d'un chou à la crème et ça en dirait un éclair au chocolat.
C'est la première fois, hein, j'aimerais bien goûter. Hein.
Je pense que c'est pas mal, ouais. C'est bien la récup.
C'est trop bon, hein? Ouais, ça va, ouais. Il y a des bons gâteaux, hein?
Oui, j'ai fait. Bon, il y a beaucoup de sucre. Regarde, tu es déjà gros là.
Ouais, moi, vous avez
mais toi, là. T'es un sportif. Bon appétit.
Merci.
Merci. Rappelle-moi ton prénom déjà.
Malik.
Bah voilà, c'est terminé. Du coup, on va tout trier. On va voir ce qui passera pas les deux jours. Parce que les gens aussi veulent bien récupérer des distribs. Et voilà, on va balancer pas mal de choses, malheureusement. Et ça pose une nouvelle question, qui est celle des poubelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout assez de place dans nos poubelles, vu qu'elles sont en plus pas changées toutes les semaines. Donc on va essayer de trouver une solution pour jouer tout ça.
Et du coup, vous faites quoi là?
Ah là, on fait couler du jus, comme tout à l'heure dans la bagnole, c'est-à-dire qu'on fait couler du jus de fraise sur les affaires.
Et donc vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et vous écoutez les infos. Là, vous venez d'écouter un reportage à l'espace communal de la Guillotière. On vous précise que le 21 juin, l'espace communal de la Guillotière ouvre ses portes pour redémarrer ses activités avant peut-être une expulsion à partir du 10 juillet, mais ça, on va en parler tout à l'heure à l'interview.
Et on continue avec la suite de la mobilisation dans le secteur de la santé, puisqu'il y a une manifestation demain à 13h, rassemblement devant l'hôpital Édouard Herriot. Alors aujourd'hui, 6 syndicats et collectifs, à savoir la CGT, FO, Sud, la CFTC, Interurgence et le collectif Interhôpitaux, ont tenu une conférence de presse en vue de la mobilisation nationale de demain. Apparemment, les médias se sont déjà lassés du sort des soignants, puisqu'on était 4 à y assister. Je vais d'abord vous lire leurs revendications pour vous laisser après écouter le développement de leurs revendications et l'état des lieux de l'hôpital en ce moment. Alors, ils demandent d'abord un plan de formation pluridisciplinaire et surtout un plan de recrutement massif de personnel pour tout le secteur, c'est-à-dire hôpitaux, EHPAD, structures sociales et médico-sociales. Une revalorisation générale des salaires, 300 euros minimum, et surtout le dégel du point d'indice dans la fonction publique. Une prime de 1500 euros pour tout le monde, l'augmentation des budgets des établissements à hauteur des besoins, l'arrêt de toutes les restructurations, fusions, fermetures d'établissements, de services et de lits et réouverture de lits, un accès à tout le matériel nécessaire pour nous protéger et prendre en charge correctement la population et le dépistage de tous les personnels. Et puis on écoute le reportage.
Comme l'a dit Edouard Philippe, on continue le cap de Ma Santé 2022. Et Ma Santé 2022, c'est plus de collaboration publique-privée, continuer de développer l'ambulatoire et continuer donc de fermer des lits. Même au niveau des rémunérations, le président Macron a dit hier revalorisation des soignants, donc pas les autres. C'est ce qu'il sous-entend en disant revalorisation des soignants. Or, à l'hôpital, il n'y a pas que des soignants. Il y a des techniques, des ouvriers, il y a des médico-sociaux, il y a des secrétaires, enfin il y a plein d'autres métiers. Et c'est un dégel du point d'indice qu'il faut pour pouvoir revaloriser tous ces métiers-là.
des réouvertures des structures fermées, entre autres pour la psychiatrie, c'est important parce qu'en psychiatrie on a subi de nombreuses fermetures de structures. On a besoin aussi d'embauches de personnel, que ce soit au niveau de l'hôpital, mais aussi au niveau des EHPAD et au niveau de l'action sociale, qui sont aussi des structures en difficulté.
Dans la journée de demain, on veut y intégrer la question de la réhabilitation des cotisations sociales, à travers, y compris les entreprises, à travers ce que les entreprises appellent des charges, mais c'est des cotisations sociales. Et nous, on dit défendre le service public hospitalier, défendre tout le secteur hospitalier, action sociale, EHPAD, etc. C'est y compris défendre la notion de cotisation sociale, qui est une notion de partage des richesses. Et nous voulons que cette notion qui est galvaudée jusqu'à présent par le gouvernement, par les patrons, par les capitalistes, elle reprenne pied et elle soit incontournable. Parce que c'est à travers ça qu'on pourra améliorer les conditions de soins, améliorer y compris la prise en charge des patients, l'accueil des patients, que ce soit dans les EHPAD, dans l'action sociale ou dans l'hôpital. Et c'est pour ça que nous, on se considère non pas les salariés d'un gouvernement ou d'une direction, mais les salariés de toute la population. Et c'est pour ça qu'on appelle toute la population à défendre l'hôpital et les structures sociales et médico-sociales.
C'est que certains directeurs, sous la crise, ils ont profité de fermer des unités par le biais de la cellule de crise. Nous, on demande que toutes les lignes des services qui ont été fermés pendant la crise Covid soient rouvertes.
Vous savez, je crois que même nous, on n'avait pas conscience à quel point ils avaient détruit l'hôpital avant cette crise. Enfin, moi, si on m'avait dit qu'il n'y avait pas de masque, qu'on n'avait pas de masque en stock à l'hôpital, franchement, j'aurais pas cru avant ce qui s'est passé. Et ça a mis en lumière vraiment l'état de délabrement dans lequel on se trouve. Pareil sur les lits de réanimation. Enfin, quand vous vous rendez compte qu'à l'hôpital Édouard Herriot, ils ont dû rouvrir des lits en catastrophe en appelant ça lit de réanimation sans médecin réanimateur, avec des médecins de bloc à la place des médecins réanimateurs, avec des infirmiers pas formés à l'AREA. Enfin, tout ceci est une honte. Le gouvernement a du sang sur les mains avec ce qui s'est passé. C'est 30 000 morts. C'est tous les patients qui sont morts dans les EHPAD parce que l'ARS a donné des directives de ne pas muter ces patients à l'hôpital public. Et ça, des directeurs d'hôpitaux nous l'ont confirmé. À l'hôpital d'Albigny, c'est 70 morts. À l'EHPAD de Pau-Lyonnais, c'est plus de 30 morts. Et ça, partout dans la France, ça s'est multiplié parce que les personnes âgées n'ont pas eu le droit d'accéder à l'hôpital. S'ils veulent vraiment donner plus de moyens à l'hôpital, ce qu'il faut, c'est la suppression de l'ONDAM. La suppression de la T2A. Or, vous avez vu qui a été nommé à la tête de Ségur. C'est Nicole Nota, ancienne secrétaire de la CFDT, et qui s'était prononcée pour le plan Juppé en 1995, qui a créé l'ONDAM, qui a créé les ARS. Les ARS n'ont qu'une seule fonction, c'est l'agence de réduction des soins. Ils ne servent qu'à ça, ils ne servent qu'à fermer des lits. Donc c'est bien pour ça que nous, on en demande la suppression.
Et surtout, nous, on n'est pas prêts à échanger des augmentations de salaire contre la casse du statut. Exactement. Ou des conventions collectives, d'ailleurs. Le Ségur de la Santé, pour l'instant, il parle de rien. C'est-à-dire que c'est du bavardage, mais il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que autant pour Renault, on sait le nombre de milliards, pour Airbus, on sait le nombre de milliards, pour la santé, on ne sait pas. S'ils proposent 1 milliard pour la santé, on peut quitter la salle tout de suite. Donc nous, on veut au moins 10 à 15 milliards d'annoncer. Et ensuite, on parlera, on travaillera autour des projets qu'on peut faire avec ces milliards.
Éric Moglioni, je suis membre du syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône. Alors le Ségur, ça a été présenté comme une ouverture de discussion pour régler les problèmes de l'hôpital public, enfin de la santé et de l'hôpital public en plus particulièrement. On va dire que ça a très mal commencé parce qu'il y avait une grosse visioconférence où il y avait 300 personnes, donc le temps de parole était extrêmement limité. Les représentants du personnel non médical, il n'y a qu'un syndicat qui a pu parler, comme par hasard c'était la CFDT, alors que celle qui manage le Ségur, c'est Nicole Nota qui a été aussi à la CFDT à un poste, enfin qui était secrétaire général. Tout ça faisait un peu quand même déjà manipulé. Ça a été suivi par des réunions bilatérales où Nicole Nota recevait les différentes participants, dont la Fédération Sud Santé Sociaux. Et une des questions qu'a posé la Fédération Sud Santé Sociaux, c'est en gros, qu'est-ce que vous prévoyez comme cadre de discussion? Et elle nous a répondu, j'ai une page blanche. Donc en gros, il n'y a rien de prévu, ça a été dit sur le plan financier, mais même pas sur le plan de ce qu'on allait mettre en avant, quoi. Nous, on veut l'ouverture de négociations sur des points précis qui correspondent aux revendications du personnel et pas des discussions qui n'en finissent pas. pour ça qu'on est parti.
Ouais, vous avez quitté le secteur.
Voilà.
Okay.
Parce que là, les hôpitaux sont tous endettés. Et suite à ces dettes, en fait, ils demandent restructuration, fermeture des lits, suppression des postes. Est-ce qu'on demande aussi la suppression de toutes les dettes des hôpitaux, publics et privés?
La dette totale de la santé publique représente moins que ce qui a été accordé à la SNCF en réduction de dette. Techniquement, on coûte moins cher que le train.
Et ce qu'il nous faut, c'est l'arrêt de tous les quotas, l'arrêt du numerus clausus, parce qu'on nous dit qu'il a disparu, mais c'est faux. Encore cette année, il y a eu moins de médecins de formés. Chaque année, il y a de moins en moins de médecins de formés.
S'il y a une deuxième vague, ça va être compliqué, parce qu'il faut savoir qu'on est toujours en manque de matériel. Hein. Actuellement, les masques, même si on est revenu à une bonne pratique horaire, au niveau qualité, moi, pour avoir travaillé ce week-end, on n'a pas des masques au niveau de l'hôpital. S'il y a une deuxième crise actuellement, ça va être très compliqué pour nous. Le personnel n'est pas entièrement remis, encore beaucoup de gens sont en arrêt et souffrent des séquelles du Covid. 20 000 personnels. C'est vraiment des masques de mauvaise qualité qui se serrent mal au niveau du nez.
Et le problème,
on commence à manquer de gants également.
Le mépris, il n'a pas changé. Hein, parce que Macron se déplace sur notre département demain. Il est à Sanofi demain. Et on aurait pu espérer, alors qu'il y a une mobilisation de notre secteur santé, action sociale, public et privé, qu'il accepte de recevoir une délégation des personnels et des représentants du personnel. Et c'est pas le cas.
Il y a eu déjà une distribution avec les fiches de paye, la dernière fiche de paye, un badge, un petit pins, MyHCL, c'est la team HCL. Elle nous a intégrés dans le processus, c'est-à-dire on est en galère, mais on est ensemble, on est sur la même galère et on bosse ensemble. Voilà.
C'est quoi ce badge? C'est une sorte de médaille?
C'est une médaille, oui, c'est une sorte de médaille, achetée avec les dons. Les Hospices civils de Lyon, voilà. On fait la promotion, ils profitent, on a l'impression qu'ils profitent, parce que je ne sais pas si vous avez vu sur les bus depuis quelques années, on voit sur les bus les panneaux dans les fondations HCL et tout, on verse des dons et tout. Et bien là, j'ai l'impression qu'ils font la pub avec.
Comme il y a une baisse des crédits publics, de l'assurance maladie, eh ben, ils essaient de trouver des ressources ailleurs, des ressources en gros qui correspondent au mode caritatif des siècles passés des hôpitaux, quoi. Voilà, les dons.
Ouais. On vit dedans. Les hospices civils de Lyon tournent avec énormément de contractuels, des gens qu'on utilise comme des Kleenex et qu'on balance. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient stagiarisés, tous ces gens-là.
CDD dans la fonction publique, c'est pire que CDD dans le privé. Hein.
Là, par contre,
Par exemple, vous n'avez pas la prime de précarité. Et comme ils se débrouillent en fin de contrat pour faire en sorte que c'est la personne qui a refusé le renouvellement de contrat, ils n'ont pas de droit au chômage derrière.
Ah ouais. C'est-à-dire qu'on vous propose éternellement, parce que c'est pas comme dans le privé où on dit au bout de 3 contrats, vous êtes tenu de faire un CDI. Aux hospices, moi quand je suis arrivée, j'étais contractuelle il y a 20 ans en arrière, on m'a fait au moins 10 contrats. C'est pas limité. Ici, on a des contractuels, ça nous fait de la peine de voir des contractuels avec 6 ans de contrat. Voilà.
Merci.
Je vous en prie.
Voilà, vous écoutez toujours Radio Canu et c'est les infos. J'espère que ce reportage vous aura convaincu de vous retrouver demain devant l'hôpital Édouard Herriot à 13h pour un rassemblement qui se dirigera en direction de l'ARS pour soutenir une délégation qui sera reçue à 14h30. Et à partir de 11h30, toujours devant l'hôpital Édouard Herriot, il y aura un barbecue. Et donc on enchaîne.
Et oui, tout à fait, avec notre interview, puisqu'on accueille Adrien qui fait partie des personnes qui ont lancé la campagne Trêve Générale pour la prolongation de la trêve hivernale. Donc déjà, merci d'être ici.
De rien.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette campagne et d'où vient cette initiative?
Cette campagne qui s'appelle Trêve Générale, elle vient à la base de l'ECG, donc l'espace communal de la Guillotière, dont on a parlé aujourd'hui, et donc c'était le groupe de l'ECG auquel ensuite ajouté d'autres collectifs de squats lyonnais, essentiellement des squats où vivent des exilés, donc qui ont voulu lancer cette campagne pour étendre la trêve hivernale après le 10 juillet, puisque donc comme certains d'entre vous peuvent peut-être le savoir, la trêve hivernale qui normalement s'arrête le 31 mars chaque année, donc du 1er novembre au 31 mars tous les ans, a été une première fois prolongée par le gouvernement pendant le confinement jusqu'au 31 mai, et a été une deuxième fois prolongée avec l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Donc l'idée, c'est de faire une campagne, de mobiliser toutes les forces autour de cette question pour essayer de la prolonger, si possible, jusqu'à la prochaine trêve hivernale.
Okay,
le 1er novembre, donc.
Le 1er novembre de cette année.
Qui permettra d'aller jusqu'au 31 mars. 2021.
Voilà, exactement.
On rappelle que la trêve hivernale suspend les expulsions de logements, quels qu'ils soient, c'est-à-dire location ou squat, durant toute la période hivernale. Oui, à quelques exceptions près. En effet, depuis la loi Elan, mais on va peut-être pas rentrer dans ces détails. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui risque de se passer à partir du 10 juillet ? On sait que le confinement, il y a 6 à 7 millions d'impayés de loyers en plus durant la période, hein, parce que les gens se retrouvent dans une situation économique désastreuse. Comment est-ce que ça va se passer à Lyon ? Est-ce qu'il y a des lieux qui sont particulièrement en danger ?
Comme tu le dis, le confinement déjà ça a fait baisser énormément les ressources des foyers et du coup on s'attend à avec tous ces impayés donc qui serait de l'ordre de 6 à 7 millions en France, on s'attend à une explosion des expulsions, donc d'abord locatives, hein, parce que c'est là où on a le plus de chiffres, mais aussi les squats, et, notamment à Lyon. Il y a au moins donc il y a le squat Le CG dont on a parlé le 10 juillet qui est expulsable. Il y a un autre squat qui s'appelle le 44 à Villeurbanne qui est expulsable. Il y a le Quai Arloin qui avait été ouvert en juillet dernier qui est aussi expulsable, qui est la suite de l'Amphiz. Et un autre petit squat de famille à Villeurbanne qui s'appelle chez Augustine qui est aussi expulsable. Et puis c'est sans parler de tous les squats qui ont actuellement leur procès. Donc ça a commencé cette semaine pour le Dur à Cuire et Route de Vienne. Enfin, ouais. Et la semaine prochaine, c'est Faisin, il me semble, un squat à Faisin. Ah oui, c'est demain. J'ai oublié qu'on était déjà cette semaine.
Mais c'est normal, c'est lundi.
Ouais. Et la semaine prochaine, encore un autre squat, Lafayette. Ouais, voilà.
Ça concernerait environ combien de personnes expulsées des squats, là, et notamment principalement des exilés, mais pas uniquement, du 10 juillet au mois de septembre, à peu près en deux mois, sur Lyon ?
Si on fait le total, on dirait grossièrement un millier de personnes, ouais, grosso modo, quoi.
D'autant qu'on peut préciser aussi que le collège Maurice Sève, qui accueille énormément de personnes, sera probablement expulsable à partir de septembre. Quoi. Ouais. Donc la prolongation de cette trêve, elle mettrait à l'abri l'ensemble des gens qui habitent dans tous ces bâtiments.
Voilà. Enfin, il y a quand même à préciser que c'est en général à l'appréciation du juge de laisser cette trêve hivernale. Mais bon, il y a des arguments à mobiliser pour l'obtenir et ça a été obtenu pour différents squats, donc ça servira dans tous les cas.
Oui, voilà, notamment l'espace communal où le bénéfice de la trêve a été obtenu. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette campagne et surtout des événements à venir, notamment celui de mercredi ?
Ouais, alors du coup, cette campagne, elle va commencer publiquement mercredi avec un premier rassemblement place Guichard à 18h. Donc ce premier rassemblement, c'est pour regrouper les forces, se compter et lancer la dynamique qui s'achèvera fin juin.
Tout à fait.
Avec une manifestation le samedi 27 juin. Mais entre-temps, le mercredi prochain, il y aura un autre rassemblement devant le Crous. Cette fois, parce qu'on voulait marquer le coup, enfin symboliquement, devant le Crous, c'est aussi la précarité étudiante qui est visée, qui sont parmi les en première ligne dans les futures expulsions s'il y en aura. Enfin,
grave dans la merde. Beaucoup d'étudiants, contrairement à d'habitude, qui n'ont pas pu partir des cités universitaires.
Ouais.
Du coup, qui vont se retrouver probablement à la rue à partir du 18 juillet.
Ouais.
Et aussi, les étudiants étaient particulièrement concernés par les pertes de revenus, puisque les emplois étudiants sont précaires. Et du coup, ils n'ont pas eu de chômage partiel, ils n'ont pas eu de compensation. Donc voilà, ils sont particulièrement concernés par ces questions-là d'expulsion locative.
Et puis pour trouver un travail en ce moment, c'est aussi une grosse, grosse galère, hein, pour les étudiants.
On sent que c'est un étudiant qui parle.
Ancien étudiant.
Donc les dates à retenir, c'est mercredi à 18h, place Guichard. Donc l'idée, c'est un peu de prendre la température et de faire un peu un point sur la situation dans des différents lieux de Lyon et puis avec différents collectifs. Une autre échéance le mercredi suivant devant le Crous pour mettre en lumière particulièrement.
À 18h. À 18h. 24 juin à 18h.
Mmh. Et puis une manifestation le 27.
Voilà.
Très bien.
Mmh. Ouais, non, et puis donc, comme. Enfin. Le but, c'est aussi qu'il y ait des collectifs d'hébergement d'urgence, tu vois, qui rejoignent le mouvement. Donc, parce que ça part des squats, avec un agenda un peu serré, où il n'y a pas eu pu avoir tout de suite. Toutes les assos, les collectifs, etc., qui sont mobilisés sur la question, mais dont on espère qu'ils nous rejoindront dès mercredi, avec des prises de parole, des prises de parole des habitants aussi, et puis pour finir en force le samedi 27 juin, si possible. Voilà.
Oui, parce que cette campagne avait déjà été initiée, entre guillemets, à un moment en novembre 2017 pour mars 2020, sans être au courant, évidemment, comme tout le monde, qu'il y avait une crise sanitaire, le coronavirus. Et depuis, eh bien, ça a été repris, effectivement, là, par un certain nombre de collectifs. Et donc, c'est un appel qui doit être vraiment très largement diffusé, j'ai l'impression, pour tous les mercredis mobilisés le samedi 27 juin.
Et on rappelle pour terminer qu'à Paris, les bailleurs sociaux ont annoncé la prolongation de la trêve hivernale donc jusqu'à la prochaine trêve, donc jusqu'au 31 mars 2021. Bon, ça concerne bien sûr pas l'ensemble des gens qui sont menacés d'expulsion, mais c'est déjà un pas important et il nous semble qu'à Lyon, ça serait possible d'obtenir des mesures similaires, voire plus. Et ben merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.
On termine tout de suite avec l'agenda.
Voilà, on peut essayer de récapituler un peu tout ce qu'on a dit parce qu'il y a beaucoup de dates qu'on a déjà données. On peut commencer avec demain. Si vous commencez la journée tôt, vous pouvez aller à 9h devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux 3 rue Docteur Flory Pierre Papillon pour soutenir justement le squat de Fézin. Qui passe en procès et si jamais il est expulsable, ce sera beaucoup de personnes qui se retrouveront à la rue. Et puis l'après-midi, donc, c'est la mobilisation dans le secteur de la santé à partir de 11h30 si vous le voulez pour un barbecue devant Édouard Herriot. Sinon le rassemblement c'est à 13h au même endroit pour aller vers l'ARS pour soutenir une délégation qui sera reçue à 14h30.
Mercredi, on le disait à l'instant, à 18h place Guichard pour demander la prolongation de la trêve hivernale.
Samedi 20 juin, donc il y aurait une manifestation, enfin il va y avoir une manifestation pour la régularisation de tous et toutes les sans-papiers, mais nous n'avons pas encore l'horaire ni le lieu.
Voilà, c'est ça, et puis peut-être une autre manif, mais on ne sait pas en fait. Donc,
les violences policières, à voir.
Restez alerte.
On ne peut vous conseiller que de consulter l'excellent rébellion.info.
Voilà, ça finit par être là-bas, même si des fois c'est tard.
Et puis dimanche, l'espace communal de la Guillotière ouvre ses portes pour relancer son activité publique. C'est à partir de midi au 45 rue Béchevelin et c'est un repas partagé. Et voilà, c'est histoire de se retrouver un petit peu avant de se déconfiner collectivement.
Et lundi prochain, eh bien, il y aura un nouveau Canu Info, figurez-vous.
19h. 102.2.
Et là, on va vous laisser avec notre
Blasphème FM.
Blasphème FM.
À lundi prochain.
À lundi prochain.